vos mobilités avec Globule.
Bonjour et bienvenue sur Globule Radio 90.5 FM. Aujourd'hui, nous sommes à Chamonix avec des élèves de 4e de Jeanne d'Arc. Ceci est un projet organisé par notre professeure principale, Madame Amélie Maire.
Nous sommes ici en groupe de 4 avec Louise, moi-même, la responsable du conducteur, Cécilia qui télécharge les fichiers, Joachim le technicien et Ariana l'animatrice pour parler des translations humaines pendant les 50 prochaines minutes.
Dans cette émission, nous allons vous présenter nos chroniques personnelles, Ariana, moi-même, qui va parler des ramen japonais, Louise du studio Ghibli, Cécilia du talent et de la chance qu'il faut pour devenir acteur, Joachim du freeride et 3 interviews en rapport avec le thème principal des translations humaines.
Si vous avez manqué ou que vous voulez réécouter notre émission, elle se trouve en podcast sur le site globule.chamonix.radio ou sur globule-radio.fr.
Pour commencer, nous allons écouter la chronique personnelle de Cécilia.
Faut-il réellement du talent pour devenir acteur? Est-ce qu'il n'y a que le talent qui compte ou est-ce qu'il faut plus que ça?
Est-ce qu'on est acteur?
Eh bien, c'est compliqué, parce que d'après Rabat, Naï ou Fela, un acteur franco-algérien de 30 ans, on est acteur de cinéma, on ne le devient pas. Mais le site Devenir acteur nous dit qu'on ne naît pas acteur, on le devient, car il faut juste de l'entraînement. Enfin, pour certains, c'est plus simple que pour d'autres, comme si leur talent leur venait naturellement, alors que d'autres, c'est du travail acharné pendant des mois et des mois.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un facteur chance qui entre en ligne de compte?
En fait, je pense qu'une grande partie n'est que de la chance et que l'autre partie est le talent. Par exemple, pour se faire repérer à un casting, il faut du talent. Mais pour accéder à ce casting et obtenir un rôle, il faut de la chance. Est-ce qu'on pourrait dire au final qu'on est tous un peu des acteurs? Je veux dire par là que s'il suffit d'avoir un peu de chance et de talent, ce n'est peut-être pas si compliqué. Mais le problème, c'est que la sélection est rude. Le Parisien nous dit qu'un acteur doit souvent passer beaucoup de castings avant d'avoir un premier rôle. C'est pour ça que beaucoup commencent par de la figuration ou des courts-métrages plutôt que de viser tout de suite des rôles importants. Évidemment, le talent se travaille et plus on a de talent, plus on a de chances de réussir.
Mais en vrai, c'est quoi le talent?
Le talent, d'après Le Parisien, c'est de savoir manier des techniques gestuelles et vocales, d'avoir une bonne mémoire et de posséder une forte personnalité pour se démarquer des autres. Et c'est encore mieux si l'acteur sait chanter, jouer d'un instrument, danser, parler une autre langue ou mettre en valeur une capacité physique ou artistique. Je pense qu'au final, il faut du talent, mais pas que. La chance a aussi un rôle vraiment très important pour devenir acteur.
You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird. All these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great, and though my love is true,
my love is real, and though my love is true.
d'écouter I'm Like a Bird de Nelly Furtado. Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM. Vous êtes en train d'écouter une émission sur les transactions humaines présentée par les élèves de 4e du Collège Jeanne d'Arc. Mais avant, nous vous présentons deux chroniques personnelles sur des thèmes que nous avons choisis. Maintenant, Louise va vous parler du studio Ghibli.
La plupart des gens connaissent les films Mon voisin Totoro, Le voyage de Chihiro, Ponyo sur la falaise, mais saviez-vous par qui ces films ont été créés ? En 2002, le film Le voyage de Chihiro a connu un succès planétaire dans le monde de l'animation, rapportant au studio Ghibli plus de 30 milliards de yens, ce qui équivaut à 270 millions d'euros. C'est le résultat du travail du studio Ghibli qui a, grâce à leur film, changé le monde du cinéma d'animation.
C'est quoi le studio Ghibli ?
Le studio Ghibli est un studio des courts et longs métrages animés. Il a été créé en 1985 par Hayao Miyazaki et Isao Takahata. Miyazaki a choisi le nom de Ghibli qui, en italien, fait référence au vent chaud du désert du Sahara, car il dit qu'il voulait provoquer une tornade dans le monde de l'animation japonaise.
Les films ont-ils un décalage de sortie entre le Japon et la France ?
Comme les films du studio Ghibli sont créés au Japon, oui, il y a un écart de sortie des films entre le Japon et la France. Par exemple, Mon voisin Totoro est sorti au Japon en 1988 et en France en 1992 lors d'un festival, soit 4 ans plus tard. Ce film a eu tellement de succès qu'il est sorti deux fois au cinéma. La première en 1999 et la deuxième en 2002. Mais ce sont seulement les premiers films qui ont un écart de sortie de quelques années avec la France, car l'écart passe progressivement de quelques années à quelques mois seulement.
Qu'est-ce qui fait le succès de ces films ?
Derrière les films du studio Ghibli se cache de la réflexion philosophique et de la contemplation, car certains de ces films parlent de sujets ayant une morale. Mais quand on pense au studio Ghibli, on pense avant tout au dessin de la nature et au décor magnifique. Les films ont tous une pensée pour la nature et sa relation avec l'homme. Les longs métrages du studio Ghibli ont été inventés dans le pays où la culture du manga est très présente, ce qui a beaucoup d'emprise sur les films d'animation. Miyazaki a influencé de nombreux producteurs qui ont eux aussi créé des films animés tels que Your Name de Makoto Shinkai et A Silent Voice de Naoko Yamada. On peut entendre dire qu'il est rare de voir un film d'animation digne du successeur de Miyazaki. Le studio Ghibli a eu un grand succès dans le monde du cinéma japonais, mais aussi dans le monde entier. J'ai décidé d'en parler parce que ces films me fascinent et que je les trouve bien pensés.
Écoutez California Dreaming par The Mamas and the Papas, puis Californian Soil de London Grammar. Sur Globule Radio 90.5 FM. Vous êtes en train d'écouter une émission sur les translations humaines présentée par les élèves de 4e du Collège Jeanne d'Arc. Mais avant de vous parler des translations humaines, je vais vous présenter ma chronique personnelle sur le ramen au Japon.
Saviez-vous que le ramen est un plat plus courant au Japon que le sushi ? Aujourd'hui, Ariana va vous parler d'un plat venant du Japon et de la Corée du Sud nommé le ramen.
Bonjour, pour ceux qui ne le savent pas, le ramen est un bouillon à base de viande avec des légumes, des épices et des nouilles faites maison. La partie la plus importante est le bouillon. C'est celui-ci qui définira le goût de la soupe. Pour avoir une bonne soupe, il faut avoir un bon bouillon et pour cela, c'est difficile.
Et comment on fait le bouillon ?
Les différentes parties du poulet et du porc sont mises dans une énorme casserole. On pourrait même dire que c'est un chaudron. Ensuite, il faut ajouter de l'eau et les laisser bouillir. Plus tard, dépendant du restaurant, les chefs ajoutent les légumes et les épices de leur choix. La deuxième chose la plus importante sont les nouilles.
Comment se font les nouilles ? Sont-elles faites maison ?
En réalité, ce n'est pas vraiment difficile de faire de bonnes nouilles. Il faut seulement mélanger deux sortes de farine ensemble et ajouter un peu de bouillon, du ramen pour former une pâte. Ensuite, il faut faire passer la pâte dans une grande machine qui l'aplatit et la coupe en ficelle. Et maintenant, c'est prêt à servir.
Comme nous avons les nouilles et le bouillon, comment tout est assemblé dans l'assiette ?
En premier, ils mettent de la sauce, puis de l'huile dans laquelle ont été cuits des oignons, et ensuite on verse du bouillon. Maintenant que la base est prête, on peut s'occuper des garnitures. Celles-ci dépendent du restaurant et des choix du chef, mais la plupart du temps ce sont des oignons, des poireaux, un œuf, du poulet ou du porc et des épices. Des fois, ce sont même des fruits de mer ou du poisson.
En conclusion, le ramen est un plat assez difficile à faire, non ?
Oui, tout à fait. Le bouillon peut prendre environ un jour à cuire, alors d'habitude, les restaurants au Japon préparent tout un jour à l'avance pour que les clients soient servis rapidement. La seule chose qui reste à faire le jour J est d'assembler l'assiette. Et maintenant, nous allons écouter l'interview de Cecilia. Elle a posé des questions sur les translations humaines à Yvonne Kitching.
Yvonne Kitching est une frontalière qui va nous parler de ses migrations vers la Suisse. Bonjour Madame Kitching, pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez décidé de travailler en Suisse ?
Je travaille en Suisse et non en France car je suis une enseignée qualifiée pour le système scolaire britannique et international. Je ne suis pas qualifiée pour enseigner dans le système éducatif français.
Depuis combien de temps travaillez-vous en Suisse ?
Je travaille en Suisse depuis 17 ans.
Avez-vous déjà travaillé dans un autre pays que la Suisse ?
J'ai enseigné en Écosse et en Angleterre. Et j'ai passé une année en Italie à l'École internationale de Milan.
Comment vous organisez-vous pour aller au travail?
Donc, je pars à 6h30. Je me rends au travail en voiture.
Combien de temps êtes-vous sur la route par jour?
Mon trajet est de 90 km à aller et au retour et dure 1 heure et 15 minutes.
Avez-vous déjà rencontré des problèmes aux frontières?
Non, j'ai été arrêtée et on m'a demandé mon permis de travail frontalier et mon passeport, mais je n'ai jamais rencontré des problèmes à la frontière.
Comment avez-vous travaillé pendant la crise du Covid-19?
Pendant le Covid, j'ai enseigné en ligne pendant 5 semaines. Puis j'ai fait de l'aller-retour pour travailler en Suisse avec une attestation de travail pour franchir la frontière.
Est-ce rentable de faire le trajet pour aller travailler en Suisse par rapport au prix de l'essence et de votre salaire?
Oui, je pense qu'y même avec l'augmentation du coût de l'essence, les salaires et les taux de change resteront plus favorables que le même emploi en France.
Merci beaucoup d'être venu pour cette interview.
Merci Cécilia, mais avec plaisir. Bonne journée.
Encore merci à Yvonne Kitching de s'être déplacée pour l'interview.
non, c'est pas possible.
Des voyages de Desireless et Englishman in New York de Sting. Vous êtes bien sur Globule Radio 90.5 FM. Vous êtes en train d'écouter une émission sur les translations humaines présentée par les élèves de 4e du Collège Jeanne d'Arc. Pour la dernière chronique de cette émission, Joachim va présenter la sienne sur le ski freeride.
Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du ski freeride dans cette chronique.
Comment faire du ski freeride à Chamonix ?
Pour faire du ski freeride, à Chamonix, on peut s'inscrire au club ou à des stages pendant l'hiver.
Quelles sont les principales considérations de sécurité que les freeriders doivent prendre en compte lorsqu'ils explorent des terrains montagneux non balisés ?
Des équipements tels qu'une protection dorsale et un casque sont fortement conseillés, voire indispensables, mais ne sont pas suffisants en cas d'avalanche. Bien sûr, il faut être accompagné de quelqu'un quand on va faire du ski freeride en cas de chute.
Quelles sont les compétences essentielles requises pour pratiquer le freeride en toute sécurité ?
Pour faire du ski hors piste, il faut un bon niveau de glisse, de bonnes connaissances, un équipement adapté et le matériel requis, de l'expérience et une bonne conscience de la nature et des dangers.
Quel est le matériel de freeride requis pour en faire ?
Le matériel de freeride requis pour faire est un détecteur des victimes d'avalanche, une sonde, une pelle, un airbag. En cas d'avalanche, le dispositif se déclenche et augmente la flottabilité du freerider, ce qui en fait une bonne option pour améliorer sa sécurité. Un téléphone portable ainsi qu'une trousse de premiers secours en cas d'urgence, un casque en hors-piste, les pierres et les rochers sont en partie recouverts par la neige.
Quels sont les risques du ski hors piste ?
L'avalanche qui peut enfuir une personne sous plusieurs mètres de neige, le terrain, comme les barres rocheuses, les crevasses d'un glacier, les chutes de sérac ou de corniche, les blessures dans un environnement difficile d'accès pour les secours, un trauma crânien en station sera par exemple beaucoup plus rapidement pris en charge par les pisteurs secouristes que dans un vallon reculé. Conclusion, vous pouvez faire du ski freeride ou du snowboard à des endroits non balisés, mais faites attention et soyez toujours accompagné. Maintenant, on va écouter l'interview d'Ariana qui va poser des questions à Sonia Thomas qui travaille dans l'immobilier.
Bonjour Sonia Thomas, merci d'être venue. Je sais que vous travaillez à l'agence immobilière Sotheby's à Chamonix et j'ai quelques questions à vous poser.
Je suis ravie d'être présente et de pouvoir répondre à vos questions dans le cadre de votre beau projet à l'école Jeanne d'Arc de Chamonix.
J'espère que vous êtes prête pour passer à la radio.
Absolument, sans problème.
Donc pour la première question, depuis combien de temps travaillez-vous dans l'immobilier ?
Alors dans l'immobilier, nous avons démarré il y a 10 ans maintenant avec mon mari Lionel Thomas, en ouvrant notre première enseigne sur Chamonix, qui s'appelait en 2014 Mr. and Mrs. Thomas Private Office. Nous avons au départ, pendant 3 ans, travaillé pour une société basée en Suisse, et très rapidement, nous avons voulu nous implanter avec notre propre enseigne sur Chamonix, Mr. and Mrs. Thomas Private Office. À la suite de quoi, nous avons rejoint le réseau Sotheby's International Realty en 2019 à Chamonix, avec l'ouverture de notre première agence à Chamonix. Et en décembre de cette année, en 2022, nous avons ouvert la deuxième agence à Argentière, qui s'appelle Chamonix, Argentière Sotheby's International Realty. Donc une belle expérience aujourd'hui sur Chamonix, absolument.
D'accord, du coup, ça fait quand même très longtemps que vous travaillez dans l'immobilier.
Oui, plusieurs années. On va dire plus de 10 ans maintenant.
En quelle saison avez-vous le plus de demandes ?
Alors aujourd'hui, sur le marché de l'immobilier, comme on l'observe depuis plusieurs années maintenant, il y a plus de périodes creuses sur Chamonix en termes d'activité immobilière et d'acquisition ou de vente de projets immobiliers. On est ouvert toute l'année parce que les demandes proviennent évidemment d'un peu partout dans le monde maintenant et la clientèle étant internationale, que ce soit pendant des vacances scolaires ou hors période de vacances scolaires, nous avons des clients toute l'année. Il est évident que la période des fêtes de fin d'année reste une période extrêmement occupée pour nous, donc même les jours fériés, nous restons ouverts. En revanche, il n'y a pas de période de fermeture, on reste ouvert toute l'année. Il n'y a plus de période creuse comme on pouvait l'observer précédemment il y a encore quelques années.
D'accord, vous avez un peu répondu à ma question suivante, mais est-ce que vous avez des mois de l'année où le nombre de demandes est très bas et si oui, lesquels et pourquoi ?
Alors, il est évident qu'on peut toujours observer une période où les demandes vont être moins importantes que d'autres périodes de l'année. Le mois de décembre, le mois de janvier, le mois de février, donc ce sont des périodes très fortes sur Chamonix, puisque nous sommes sur une station de montagne, et donc de forte affluence. Les acquéreurs profitant évidemment de cette période pour organiser des visites et voire faire l'acquisition d'un bien. Les mois de, je dirais, avril ou les mois de octobre pourraient être les mois les moins chargés pour nous. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que la période est creuse. Ça veut dire qu'il y aura toujours une activité constante, mais moins importante que sur la période des fêtes de fin d'année et jusqu'aux vacances du mois de mars, voire de Pâques.
D'accord. Dans ces dernières années, est-ce que le nombre de ventes de biens immobiliers a-t-il augmenté ou baissé ?
Oui, alors depuis la crise du Covid en 2020, le nombre de ventes et le nombre d'acquéreurs souhaitant investir sur un projet immobilier à la montagne, notamment sur des projets plutôt haut de gamme, plutôt de prestige, puisque c'est dans ce secteur-là que nous représentons l'immobilier ici à Chamonix, ce nombre d'acquéreurs a considérablement augmenté. Ça, c'est vrai. Pour vous donner un exemple, si nous parlons de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de l'année 2021 a été multiplié par 2 l'année précédente et à l'année 2019. Donc ça a considérablement augmenté. Toutefois, je crois que c'est représentatif d'un certain nombre de secteurs d'activité, pas seulement l'immobilier, mais en tout cas l'immobilier de prestige, oui, est devenu une valeur refuge en termes d'investissement. Et donc nous avons une très très forte demande depuis la crise du Covid pour l'acquisition d'un bien immobilier à la montagne.
D'accord. D'où viennent les nouveaux arrivants qui cherchent à se loger à Chamonix ?
Alors pour nous, nos acquéreurs sont des acquéreurs qui investissent dans une résidence secondaire, principalement une résidence secondaire. On peut être amené à vendre un bien immobilier dans le cadre d'une résidence principale, mais c'est plutôt rare. Ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Donc nous, les nouveaux arrivants en tant que tels, on pourrait parler de clients expatriés qui veulent s'installer à Chamonix sur une période de 1 an ou 2 ans. Mais dans ce cas-là, ils vont investir sur un projet immobilier. Et on ne parle pas vraiment de nouveaux arrivants qui cherchent à se loger. Nous, on parle vraiment d'un projet d'acquisition et au départ d'un projet d'acquisition plaisir. C'est-à-dire, ça reste un achat plaisir pour ces clients-là qui possèdent par ailleurs déjà un bien immobilier. Donc, on ne peut pas dire qu'ils sont à la recherche de logement en tant que tel. On n'est pas sur une clientèle de résidents locaux. On est sur une clientèle de personnes qui souhaitent acquérir une résidence secondaire. Donc, c'est un petit peu différent. Et ils n'ont pas les mêmes besoins, évidemment, ni les mêmes attentes.
Donc, comme vous l'avez dit avant, la plupart des personnes qui cherchent à avoir un bien ici, c'est pour les sports d'hiver, comme...
Alors pour nous, pour nos clients, effectivement, on est sur de l'achat de résidences secondaires, pas seulement pour des sports d'hiver, puisqu'aujourd'hui, on observe que beaucoup de nos clients viennent dans leur résidence secondaire plusieurs fois par an. Il y a encore quelques années, ces maisons pouvaient rester fermées peut-être 8 mois par an et les personnes venaient essentiellement l'hiver. Avec l'effet de la crise du Covid, nos acquéreurs et le profil de nos acquéreurs a vraiment changé. On est sur un profil d'acquéreur qui est plutôt jeune, en tout cas des quadras, qui ont un fort pouvoir d'achat et qui peuvent se permettre de travailler de chez eux. Et de fait, hein, ces personnes-là vont pouvoir profiter de leur résidence secondaire beaucoup plus souvent qu'auparavant, puisqu'ils y trouvent un cadre de vie assez exceptionnel à Chamonix.
D'accord. Et est-ce que le prix des biens que vous proposez à la vente varie en fonction du nombre de demandes que vous avez ?
Pas du tout. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier à Chamonix, évidemment, a explosé. Les prix de vente ont considérablement augmenté. Nombre de nos acquéreurs n'ont pas besoin ou font très peu appel à un prêt immobilier. Ce sont des personnes qui achètent dans le cadre d'une résidence secondaire, donc on parle d'achat plaisir. Ce sont des personnes qui ont le budget pour investir et très souvent, ils achètent sans avoir recours à un prêt immobilier. Maintenant, ces acquéreurs sont plutôt d'origine française, bien souvent expatriés à l'étranger. Beaucoup résident en Angleterre et à Londres. Mais le prix du bien immobilier en tant que tel, c'est pas en fonction du nombre d'acquéreurs. C'est l'effet de la rareté vis-à-vis de la demande qui a fait exploser les prix, puisque depuis la crise du Covid, on a de plus en plus de demandes. Et évidemment, le marché n'est pas élastique. On ne peut pas construire. Il y a aussi une géologie et de la vallée à prendre en compte et la densification ne peut pas permettre de pousser les montagnes. Donc c'est vrai que les personnes qui veulent investir à Chamonix aujourd'hui connaissent le budget qu'il faut placer parce que même s'il y a beaucoup de chalets à la vente, chacun a ses exigences et effectivement ils sont prêts à payer pour ça.
Et est-ce que les prix des matériaux nécessaires pour faire construire un bien est-il constant ou il varie ?
Alors aujourd'hui, il n'est pas du tout constant. Pour construire aujourd'hui à Chamonix, je parle toujours de Chamonix puisque c'est quand même le marché que je connais, les prix ont augmenté de 20%. Les prix des matériaux pour construire. Nous, si nous parlons plutôt de notre secteur dans lequel nous positionnons notre marque, c'est-à-dire l'enseigne Sotheby's International Realty, qui reste sur de l'immobilier de prestige, on est sur des coûts de construction de 5 000 € du mètre à Chamonix pour construire un bien plutôt haut de gamme. Maintenant, les prix des matériaux, mais ce n'est pas tellement sur l'immobilier de prestige, pour le coup, c'est les prix des matériaux en général ont beaucoup augmenté du fait de la rareté de ces matériaux. Alors il y a plein de causes à cela, mais il est vrai que les prix ont augmenté de 20% et ils vont continuer à augmenter. Ça ne va pas du tout stagner, contrairement à ce que l'on pourrait souhaiter. Voilà, les prix des matériaux vont augmenter et il y a un certain nombre de facteurs à prendre en compte à cela, c'est-à-dire les empreintes carbone, parce que les matériaux viennent de plus en plus loin, il faut les transporter et donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération.
Donc vous avez dit que les prix ont augmenté à cause de leur rareté, mais y a-t-il d'autres raisons pour leur augmentation ?
Oui, alors très certainement que la crise que l'Europe peut connaître avec la guerre en Ukraine a évidemment un impact là-dessus, puisqu'il y a beaucoup de matériaux aussi qui provenaient de ces pays-là en Europe. Et malheureusement, il y a y a une fabrication qui s'est amoindrie. Et donc la provenance de ces matériaux aujourd'hui a un fort impact, c'est certain. Il faut trouver d'autres sources de production. Il faut évidemment pouvoir trouver les matériaux, pouvoir les fabriquer, pouvoir les amener. Donc c'est tout ça a un impact, mais c'est lié en fait. C'est tout ce que l'on vit depuis plusieurs mois aujourd'hui a un impact dans un certain nombre de secteurs d'activité. Mais pour la construction, effectivement, c'est un problème. Puisqu'il faut trouver des tuiles, il faut trouver du bois, il faut trouver du béton. Donc toutes ces matières premières aujourd'hui ont un coût, c'est vrai.
Et donc est-ce que cette augmentation a un impact sur le prix final du bien ?
Absolument, puisque un acquéreur aujourd'hui qui va vouloir acheter un terrain, par exemple, pour construire son chalet, il est évident qu'aujourd'hui, il va devoir payer un petit peu plus cher au mètre carré, puisque à l'origine, il y a toute une chaîne qui est organisée, et donc il faut trouver ces matériaux, et ces matériaux ont un coût de plus de 20% aujourd'hui. Donc ça va s'impacter, évidemment, sur le prix final du projet d'acquisition.
Et pour ma dernière question, quel est le prix du mètre carré à Chamonix ?
Alors aujourd'hui à Chamonix, pour vous donner un exemple, notre agence a vendu un appartement dans la résidence des Alpes à 17 000 euros du mètre carré. C'est des choses qui étaient complètement impensables il y a encore 10 ans. Donc ça peut varier entre 14 000 et 17 000 euros du mètre carré pour un appartement en centre-ville. Dans une belle résidence. Maintenant, il s'agit d'un appartement, évidemment, qui n'est pas à rénover, qui est en très bon état, joliment refait. Si on parle de chalet, toujours sur Chamonix, proche du centre-ville, on va avoisiner les 13 000, 14 000, 15 000, 16 000 euros du mètre carré. Si on s'éloigne un petit peu de Chamonix et que l'on va sur Argentière, qui reste une destination aussi très prisée parce que c'est un village qui est absolument bourré de charme, les appartements vont être autour de peut-être 10 500, 11 000 euros du mètre carré, les chalets autour de 12 500. Et encore une fois, tout dépend de la situation du chalet, tout dépend de l'état du chalet. Est-ce qu'il faut le rénover ? Est-ce qu'il faut complètement le réhabiliter ? Et il en est de même pour les appartements. Et ça dépend évidemment de la superficie, puisque là aussi, plus vous avez un espace important, plus vous allez payer cher. Mais ça dépend beaucoup de l'état du bien et de la situation du bien. Une vue dégagée, une vue sur le Mont Blanc, un jardin, pas de jardin. Voilà, tout ça, c'est à prendre en compte. Il y a toujours des quartiers très prisés sur Chamonix, comme le secteur des Prats, les Bois, les Tignes. Il y a des gens qui vont vouloir acheter uniquement sur le secteur des Pecles ou les Mossoux. Donc, des personnes qui connaissent la vallée vont très, très bien savoir où elles veulent investir et pourquoi elles investissent à cet endroit.
Merci beaucoup d'être venue et j'ai appris beaucoup de nouvelles choses, donc merci.
Merci à toi Ariana, c'était un plaisir de pouvoir répondre à tes questions et je te souhaite une belle continuation dans ce projet.
Merci beaucoup, à la prochaine fois. Don't be stupid. Nous venons d'écouter Around the World de Daft Punk. Vous êtes encore bien sur Globule Radio 90.5 FM. Vous êtes en train d'écouter une émission sur les translations humaines présentée par les élèves de 4e du Collège Jeanne d'Arc. Je passe maintenant la parole à Louise qui va vous présenter son interview.
Je vais interviewer Nicolas Durocha. Il est le directeur de l'Office du tourisme de Chamonix. Monsieur Durocha, depuis combien de temps faites-vous ce métier ?
Alors j'ai la chance et le grand bonheur d'être directeur de l'Office de tourisme depuis 9 ans maintenant.
Et pouvez-vous nous dire quelles sont les questions les plus fréquemment posées par les touristes à l'accueil de l'Office du tourisme ?
Alors les questions les plus fréquemment posées à l'accueil de l'Office du tourisme concernent tous nos équipements de remontée mécanique, que ce soit l'hiver mais que ce soit l'été aussi, parce que compté par des grands pionniers qui ont fait les plus grosses conquêtes de sommets dans la vallée mais aussi dans le monde entier, par l'histoire des guides qui est vraiment une histoire traditionnelle dans l'histoire de la montagne au niveau mondial, et puis par l'histoire aussi du matériel et des nouvelles pratiques qui s'inventent dans la vallée. Donc en fait ce beau territoire de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc où on a cette nature captivante, cette histoire extraordinaire et cette capitale vivante, c'est le théâtre de toutes les pratiques d'activité de montagne. On parle de l'alpinisme parce que bien évidemment Chamonix-Mont-Blanc c'est la capitale mondiale de l'alpinisme, mais finalement au fil des années, au fil des siècles, de capitale mondiale de l'alpinisme c'est aussi devenu capitale mondiale de la montagne, et en tant que capitale mondiale de la montagne, Chamonix-Mont-Blanc fait référence en matière de ski, en matière de trail, en matière de randonnée qui se développe énormément ces dernières années, et aussi en matière de sport d'eau vive, de parapente et autres activités de nature.
Et donc leur objectif est différent en été et en hiver ?
Alors oui, forcément, leur objectif est différent en été et en hiver, puisque l'attractivité de la vallée de Chamonix est différente l'été et l'hiver. Mais finalement, si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que viennent avant tout voir les gens, quelle que soit leur pratique d'activité, c'est effectivement un territoire de montagne unique. Nous, on a tendance à dire que c'est un des plus beaux territoires de montagne du monde, puisqu'on y trouve le Mont Blanc. Le Mont Blanc, c'est quand même le plus haut sommet d'Europe. On y voit ce territoire de glaciers qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir en bas de vallée. Donc finalement, les gens viennent plutôt pour le ski l'hiver, viennent plutôt pour l'alpinisme, la randonnée et le trail l'été. Mais quand même, tout ce qui rapproche tous les gens qui viennent voir la vallée de Chamonix, c'est cette volonté de voir un lieu unique.
Donc les touristes viennent plus pour un objectif touristique que pour un objectif sportif ?
Alors l'objectif sportif dans la vallée de Chamonix est aussi un objectif touristique. On va dire que c'est quand même le sport qui trône parmi les principaux motifs à la venue des touristes dans la vallée. Et d'ailleurs, nous-mêmes, habitants de la vallée de Chamonix, on a tous une passion qu'on nourrit par rapport à une activité dans ce territoire qui est quand même magique. Donc on va dire que oui, en grande majorité, c'est le sport qui amène les gens dans la vallée et la pratique du sport dans un environnement exceptionnel et hors du commun. Mais il ne faut pas négliger qu'on a aussi toute une partie de clientèle qui vient juste contempler, flâner, se promener et surtout profiter, et c'est important de le dire, d'une ville dont l'activité économique, les commerces, les hôtels, les prestataires d'activités sont ouverts 365 jours par an, 7 jours sur 7.
D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci, au revoir.
Encore merci à Monsieur Durocha d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés et j'espère qu'elle vous a plu. Nous remercions l'équipe de Globule Radio et notre professeur Madame Mère, mais aussi Ivan Kitchin, Sonia Thomas et Nicolas Durocha. À présent, nous allons laisser la parole au groupe suivant, Titaina, Snea, Léorine, qui commenceront dans quelques minutes.
Avant de passer la parole au groupe suivant, nous voulons remercier Denver qui nous a permis de faire nos montages audio pour cette émission. Merci et bonne journée.